On va essayer, pendant 7h30, de réfléchir collectivement à cette visée, à mon avis, de l'accompagnement. Et c'est une visée très importante, puisque vous savez tous que vous rencontrez les enseignants, parce que vous êtes vous-même enseignant, formateur, dans l'encadrement, que cette question de la reconnaissance professionnelle est une question sensible, plutôt vive chez les acteurs, et elle nous apparaît, en sciences de l'éducation, comme une question majeure si notre objectif, évidemment, est de viser le développement professionnel des enseignants. Et le développement professionnel des enseignants, pas seulement du côté des débutants, aussi du côté des praticiens aguerris et des experts, parce qu'être expert, c'est aussi veiller à se développer professionnellement et ne pas camper sur ses positions d'expert. Donc, ces points-là vont m'amener d'abord à faire un petit état des lieux, j'espère que je partagerai avec vous volontiers, puis réfléchir très précisément à ce que nous appelons la reconnaissance professionnelle en éducation, et j'insiste bien sur le terme « en éducation ». Puis nous irons voir quel est l'objet de la reconnaissance professionnelle, parce que si tout le monde veut être reconnu, y compris professionnellement, mais reconnu sur quoi? Et donc la question de l'objet de la reconnaissance professionnelle se pose. Quel focal nous allons nous donner en tant qu'accompagnateur? Alors je ne dirais pas tuteur, et je ne dirais pas accompagnant. On y reviendra peut-être à la fin de cette séance de travail. Mais en tant qu'accompagnateur, quel focal on peut se donner? Et puis trouver un éclairage sur un moment très particulier où la reconnaissance professionnelle peut agir sur les enseignants qui débutent le métier. Ce moment, c'est le moment d'entretien de développement professionnel. Et je voudrais vous parler d'une recherche qui a commencé il y a 2 ans, qui se poursuit, consiste à essayer de voir comment cette démarche peut être structurante pour le novice qui est accompagné, et ce qu'elle génère auprès de l'accompagnateur. Alors basculons devant cet état des lieux. L'état des lieux sur la reconnaissance professionnelle dans un processus d'accompagnement nous amène à penser d'abord que tous les acteurs ont envie d'être reconnus. Ici, aucun d'entre nous ne peut se passer de reconnaissance. Donc c'est un processus diffus que nous partageons. Mais ce processus diffus nous amène à faire des confusions. Et vous verrez que, je passe au point 4, il y a une confusion entre la reconnaissance sociale, l'enseignant dans le champ sociétal, et la reconnaissance socio-professionnelle. Elle n'est pas de même nature. Donc nous viendrons à la spécification de la reconnaissance socio-professionnelle tout à l'heure. Ensuite, cette reconnaissance socio-professionnelle, elle concerne tous les praticiens. Confirmés, débutants, experts. Il n'y a pas une reconnaissance qui ne cernerait ou ne concernerait que ceux qui débutent. Non, toute sa vie, tout au long de sa carrière, nous avons des enjeux, comme disent les Belges, des enjeux de carrière. Et derrière ces enjeux de carrière, des défis que nous nous lançons et des défis qui attendent toujours un retour de soi à soi, se reconnaître dans ses propres actes et d'autrui vers soi, être reconnu par les autres. Le contexte actuel est tendu, saturé de contradictions, donc peu ouvert à la reconnaissance, ce qui fait que l'attente, et là on a un certain nombre de travaux émanant de sociologues, l'attente de reconnaissance est très importante chez les acteurs. Mais elle est liée, cette attente de reconnaissance, à une grande problématique, celle de l'évaluation professionnelle. Donc là, de ce point de vue-là, vous ne pourrez jamais vous sortir de cette ambivalence qui a été énoncée ce matin en synthèse des ateliers d'hier, cette ambivalence qui nous, tiraille en fait, entre accompagner et évaluer, et sur laquelle je reviendrai. Un accompagnateur peut-il évaluer? Oui, mais à condition que, et c'est cette condition-là qu'il nous faut expliciter. Être accompagnateur et se trahir quand on évalue, non. Tout dépend du cadre, tout dépend de l'explicitation des règles du jeu avec ceux que l'on accompagne. Donc, évidemment, la question des pratiques évaluatives se pose et elle va nous amener à clarifier la place du contrôle dans les pratiques et dans les ressentis des acteurs pour essayer de réfléchir à ce que j'appellerais moi une collaboration évaluative, car il y a bien l'idée de deux acteurs qui réfléchissent ensemble à une pratique. L'un est peut-être l'accompagnateur, l'autre peut-être l'accompagné, mais il y a bien l'idée d'une collaboration. Et derrière cette idée, vous voyez, je reprendrai les termes qui ont été présentés par Démosthène ce matin, il y a une nécessité de positiver ce moment évaluatif. Je voudrais prendre en même temps un travers qui nous guette tous, qui relève de l'intuition pragmatique. Vous savez, c'est un chercheur belge qui a parlé de l'intuition pragmatique des évaluateurs. Vous savez, cette espèce de conviction intime qui nous habite que celui-là s'en sortira, ou que l'autre, il est déjà mal barré. Bref, l'intuition pragmatique de l'évaluateur est un ennemi juré d'une pratique éthique en évaluation. Et j'amènerai bien sûr la nécessité d'une formalisation de l'activité d'entretien et notamment du cadrage nécessaire dans la démarche qui est mise en œuvre lorsqu'il s'agit d'évaluer. Enfin, deuxième grand problème dans une démarche d'évaluation, c'est cette idée que nous avons toujours à nous départir de l'idéal de la pratique. Nous sommes dans la culture qui est la nôtre, forgée par la notion de l'idéal. Nous avons beau la repousser, elle revient au galop. Et donc cette question de l'idéal, nous la combattons avec cette idée que l'activité est toujours une activité contextualisée et que pour ne pas lui donner un statut qu'elle n'a pas, c'est-à-dire une fiction que nous porterions sur cette activité vécue et observée, nous avons tout intérêt à porter un regard extrêmement précis, d'où l'entretien de développement professionnel, d'où ce moment très particulier que nous essayons de structurer. Alors, l'état des lieux, c'est peut-être de dire qu'ici même, il y a 12 ans, en 1998, les aides lançaient un très grand colloque sur les missions d'encadrement. Et à cette époque-là, on faisait la différence entre administrer, piloter. Je me souviens d'éminents intervenants venant du ministère, venant des universités, venant de l'ESN, des inspecteurs, des formateurs, un nombre assez impressionnant de personnel de l'éducation qui se posait la question de la distinction entre administrer et piloter. On voit aujourd'hui en 2010 qu'on n'en est plus à administrer et piloter, on ne réfute pas ces dimensions-là. On ajoute un troisième terme qui est celui d'accompagner. Donc ça veut bien dire qu'en matière d'activité professionnelle, il y a bien l'idée de fixer un cap, de le tenir peut-être au plan de l'administration, de l'administratif, de se donner des marges de liberté relative quand il s'agit de piloter un système, un dispositif, mais en même temps de promouvoir les initiatives des acteurs si l'on veut vraiment entendre ce que accompagner veut dire, c'est-à-dire aller avec quelqu'un qui agit et non pas à la place de ce quelqu'un qui agit, au-devant de ce quelqu'un qui agit. On voit bien que les cultures ne sont pas les mêmes, et hier, l'inspecteur général montrait bien qu'il y avait des systèmes de valeurs qui étaient en tension, de l'universel vers le singulier. Moi, je dirais qu'il y a un système de valeurs nationales qui se décline à un niveau local, qui se décline après au niveau des équipes, puis qui fait l'objet de réflexion et fondamentalement de conflits de valeurs chez les individus que nous accompagnons et chez nous-mêmes. Puisqu'il est bien évident qu'il n'y a pas d'emboîtement idéal en matière de valeurs, mais des conflits de valeurs. Alors ça n'est jamais très simple de travailler à l'accompagnement des acteurs, parce qu'en permanence, vous aurez courts-circuits entre des valeurs qui relèvent de l'administration, des valeurs qui relèvent du pilotage et des valeurs qui sont propres à la singularité des contextes, des classes, des acteurs. Et tout ça ne va pas dans une harmonie idéale. Tout ça, au contraire, est source de tensions et de conflits. Alors, accompagner, c'est probablement accepter de gérer, ou au moins de travailler à l'élucidation de ces conflits et travailler sur ces tensions qui ne se réduisent pas pour autant. Du coup, cet état de lieu m'amène à vous présenter l'importance de la reconnaissance professionnelle. La reconnaissance professionnelle, vous voyez, elle arrive aujourd'hui dans le champ de l'éducation, bien après que des travaux aient été menés au niveau politique, au niveau sociologique, au niveau social. Alors, on a des auteurs de référence, et je souhaite quand même les clarifier. On est allé dans le champ sociologique, lire de très très près ce que disait Bonnet sur la reconnaissance, et il en sort une idée fondamentale, c'est que pour un individu inclus, agissant dans une société, être reconnu, c'est lutter. Lutter contre l'injustice, lutter contre le mépris, lutter contre les discriminations, lutter contre les inéquités. Bon, vous voyez, c'est cette idée de lutte qui est présente derrière la reconnaissance. Puis il y a toute une sociologie critique française qui s'est emparée de ce terme de reconnaissance et qui lui donne une valeur plutôt réparatrice. Il est plus important pour ces sociologues de mettre en évidence la notion de respect, la notion d'écoute, la notion de reconnaissance du sujet par lui-même et par autrui que l'idée de lutte, de bataille, de conflit. Enfin, on arrive en philosophie avec Paul Ricoeur, qui a écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle « Parcours de la reconnaissance ». Et là, la reconnaissance est prise sous un autre angle, et je dirais peut-être que c'est l'angle sur lequel nous avons plus travaillé à Toulouse, celui de la place du sujet dans l'action. C'est-à-dire que l'importance pour quelqu'un qui entre dans un métier, c'est bien sûr d'agir dans ce métier en prenant ses marques. Et prendre ses marques pour un débutant, c'est de se reconnaître soi-même dans l'activité d'enseignant. Or, bien des enseignants sont en perte de repère quand ils débutent, parce qu'ils se demandent si ce qu'ils ont fait, c'est bien. Est-ce que c'est ce que j'ai bien fait ? Là-dessus, nous avons des vidéos impressionnantes. Impressionnant, je n'ai pas le droit de les montrer, nous n'avons pas d'accord pour qu'ils soient publics en formation, mais nous les avons pour les travailler en recherche, où on voit des maîtres formateurs conseiller de jeunes enseignants dans leur classe et ne pas faire de retour qui donne à ce novice des éléments suffisamment constructifs pour qu'il puisse aller encore au-delà de ce qu'il a fait. Donc on voit des formateurs qui finissent des entretiens en disant « Bon, bah, tu sais, avec l'expérience, ça ira mieux. » Sans regarder ce novice, sans prendre attention à la fragilité de la question et à la fragilité de celui qui l'énonce. Résultat de l'entretien, le jeune enseignant qui débute se dit « Mais j'ai pas compris ce qu'elle a voulu me dire. » Et du coup, y a-t-il reconnaissance du sujet dans son action ? Elle n'est pas possible. Donc il y a là, franchement, une vigilance à exercer sur la possibilité pour un novice qui débute le métier dans des moments de rencontre avec des professionnels experts, de pouvoir se dire, ben là j'ai un point d'appui, là je m'y retrouve. Et puis je sais que, bon là j'ai pas été très bon, mais je sais maintenant j'ai des billes pour la suite. Ben, vous voyez, ces moments-là de rencontre avec des professionnels sont des moments fondamentaux dans un processus d'accompagnement, parce qu'ils permettent quoi ? La construction d'une image de soi et d'une image d'identification en tant qu'enseignant. Cette question de l'identité de l'enseignant est la question la plus importante chez les enseignants novices. Je pense qu'Evelyne Charlier, hier, en a beaucoup parlé, mais sachez quand même que l'objectif majeur pour les T1, c'est de se reconnaître dans le métier, c'est de se dire « oui, je me sens d'attaque pour mener cette classe, pour mener ce groupe classe, pour faire ce projet, pour durer 2 ans, puis je me vois un peu plus longtemps dans le métier, puis je me vois faire carrière dans le métier. Eh bien, ces moments-là, ce sont des moments où le sujet a besoin de se dire « Je suis bien dans ma peau d'enseignant, je suis bien dans mon statut d'enseignant, je suis bien dans ma mission d'enseignement. » Alors, vous voyez qu'il y a des auteurs de référence qui nous montrent des facettes de la reconnaissance. À la fois une lutte, parce que c'est jamais simple d'être reconnu et de se reconnaître soi-même. En même temps, une demande de respect et d'un regard sur soi et sur l'action d'un individu positive. Et puis, l'idée que, on va reprendre à Ricoeur, se reconnaître dans son activité, c'est construire et consolider son image d'enseignant qui exerce un métier devant les élèves dans des contextes souvent difficiles. Alors là, vous voyez, on en est au niveau de la reconnaissance, on pourrait dire la reconnaissance politique, la reconnaissance sociale. Et maintenant, il nous faut arriver au niveau de la reconnaissance professionnelle en éducation. Et la reconnaissance professionnelle en éducation, eh bien aujourd'hui, nous savons qu'elle suppose de faire la différence entre des débutants, entre des praticiens confirmés, entre des praticiens experts, et nos objectifs d'accompagnateurs ne sont pas les mêmes. Lorsque je travaille avec des enseignants qui sortent de l'IUFM, la problématique est une problématique identitaire. Se reconnaître dans l'exercice de son métier, je viens d'en parler, mais c'est aussi une problématique d'autorité devant les élèves, et c'est encore une problématique de gestion de classe. Ces éléments-là, ce sont les éléments, je dirais, structurants pour un enseignant qui débute le métier. Tant que ces éléments-là ne sont pas au cœur de la situation d'accompagnement, le professionnel novice aura entendu des choses, mais ces choses-là ne correspondront pas à ses attentes profondes. En revanche, quand j'accompagne une équipe de professionnels chevronnés, la question de l'identité de métier se pose, mais pas dans les mêmes termes. Ce qui est demandé par ces professionnels, c'est d'élargir des champs de compétences, c'est d'apprendre à travailler en équipe, c'est d'apprendre à problématiser collectivement, c'est d'apprendre à partager des démarches pédagogiques, c'est d'apprendre à réfléchir ensemble à des pratiques d'évaluation. Quand j'accompagne une équipe d'enseignants qui ont 10 ans d'exercice à Mulhouse actuellement, je peux vous assurer que ces gens-là, leur préoccupation première, c'est de gagner en expertise sur des dimensions sur lesquelles ils se lancent à peine. Partager, collaborer, coopérer, concevoir ensemble un projet, se donner des rendez-vous de travail pour analyser des pratiques d'écriture de leurs élèves, etc. Et deuxième grand point, ce que j'appelle la persévérance épistémologique. C'est-à-dire qu'à force de travailler avec des élèves en difficulté, à force d'être au contact des difficultés d'apprentissage, à force de voir des devoirs truffés d'erreurs, à force d'entendre un langage d'élèves, on s'est aperçu que la persévérance épistémologique, c'est-à-dire la notion de savoir, la répercussion de ces savoirs, la transmission de ces savoirs, bien devenait de plus en plus approximative. Et il y a une nécessité à réinterroger les savoirs, à réinterroger l'évolution des savoirs. Un enseignant qui fait le même cours depuis 20 ans mérite, je pense, ou devrait pouvoir s'interroger sur l'évolution des savoirs dans sa discipline, ou au moins dans la discipline qu'il met en évidence, si je m'adresse par exemple aux enseignants du primaire. Cette persévérance épistémologique, elle est particulièrement préoccupante lorsque on pense qu'on sait, alors que du point de vue disciplinaire, il y a eu des recherches, il y a eu des avancées. Donc très souvent, on s'aperçoit que quand on accompagne une équipe d'enseignants, bien c'est vrai, ils ont la tentation de s'appuyer uniquement sur les manuels, alors que par ailleurs, il y a peut-être des choses à lire ailleurs. Donc cette persévérance épistémologique, elle est vraiment un des objectifs majeurs de l'accompagnement des équipes d'enseignants. Enfin, je voudrais parler des experts. Vous savez, ceux qui peuvent faire la classe les yeux fermés. Bien, les experts, s'ils veulent vraiment jouer le jeu de l'expertise, ils sauront que leur professionnalité, elle est en permanence en évolution. Donc un expert, c'est quelqu'un qui veille à faire évoluer son expertise. Alors évidemment, il y a de la réflexivité en jeu. On voit bien d'ailleurs dans les universités arriver des enseignants qui ont beaucoup de bouteilles, qui ont envie de se ressourcer, qui ont envie de prendre du recul par rapport à leur pratique, qui ont envie de réinterroger leur métier. Et on voit ici une envie d'en découdre avec des situations qui leur paraissent évidentes. Et donc cette veille-là, cette vigilance-là est très importante dans l'accompagnement de ces professionnels. Donc vous voyez, la reconnaissance professionnelle, elle doit pouvoir être différenciée selon les niveaux d'expérience professionnelle, selon les niveaux d'expertise des enseignants. Elle n'est pas acquise une fois pour toutes, cette expérience. Elle se positionne tout au long d'une vie parce que les savoirs évoluent et que penser une carrière de 40 ans, 41 ans et demi, c'est-à-dire ça comme ça, sans réinterroger les modes de transmission, c'est un peu embêtant. Que va-t-on travailler dans la reconnaissance professionnelle d'un enseignant? Bien, on va quand même se poser la question suivante, c'est qu'est-ce que c'est qu'agir en éducation? Et quelles sont les grandes focales que nous pourrions discerner, prendre en tout cas, tenir, lorsque nous essayons de réfléchir avec les enseignants que nous rencontrons? Eh bien, vous voyez, nous avons pris appui sur des travaux qui viennent du CNAM, de l'analyse du travail, mais en même temps des travaux qui sont faits en éthique. Donc on ne peut pas regarder l'activité d'un professionnel sans se dire ce professionnel-là, il est dans le genre du métier. Il s'inscrit, sa pratique s'inscrit dans le système conventionnel du métier, c'est-à-dire qu'en fait, il a bien mobilisé le répertoire d'action propre à l'activité d'enseignant, ou il a bien mobilisé le répertoire d'action propre à l'activité du formateur, et ainsi de suite. Il représente, son agir représente bien l'agir d'un enseignant. Il est donc dans un genre qui définit un certain canevas d'activité. Mais ce professionnel ne se résume pas, ou l'activité de ce professionnel ne se résume pas au genre, puisque ce professionnel va y mettre sa propre touche, sa propre griffe, et il va mettre de lui-même. Donc, c'est toute cette appropriation personnelle du genre par le professionnel. Alors, Claude en parle très très bien, il parle de l'affranchissement du genre. C'est-à-dire de cette idée que nous avons tous une manière propre à nous d'agir. Et donc, finalement, reconnaître un professionnel, accepter la singularité de son agir, c'est-à-dire accepter le style qui est le sien, indépendamment du mien, en tant qu'accompagnateur ou accompagnatrice. Donc, comprendre que l'autre, eh bien, il n'est pas comme moi, il est différent de moi, et que ce style professionnel lui appartient. Enfin, agir, ça n'est pas simplement répondre à un genre, se conformer à un genre et le transformer en un style personnel, c'est aussi mobiliser une posture éthique, une réflexion éthique, une identité éthique, agir en se voyant agir comme un enseignant porté par les valeurs dont il a été question très fortement hier après-midi. Et donc cette question de l'éthos de l'enseignant, elle est particulièrement importante lorsque nous rencontrons dans ces moments d'entretien, ces enseignants, qui sont parfois très déstabilisés, très fragiles, dans le doute. Et donc il s'agit là de retravailler avec eux sur l'image du métier d'enseignant, de retravailler avec eux sur les assises et les systèmes de valeurs fondamentaux qui font que l'on a à tenir une posture d'enseignant et à ne pas renoncer à être l'enseignant. Donc ces trois focales-là, je ne les perdrai pas de vue lorsque je vais rencontrer un enseignant, un formateur. Du coup, si je ne les perds pas de vue, je vais donc aller m'intéresser précisément à trois entrées, l'action prévue, l'action mise en œuvre et l'acteur impliqué. Lorsque je vais observer une situation de classe, je vais m'intéresser à l'action de cet enseignant, alors ça peut être un débutant, pourquoi pas, et je vais me demander si effectivement, dans sa préparation de séquence ou dans sa structuration de séquence, il a pu identifier les points clés pour les élèves, s'il a pu penser une structuration adéquate à l'activité des élèves. Bien au contraire, si cette action qui a été planifiée en amont mérite d'être revue, d'être repensée, ajustée, amendée. Donc il y a probablement, derrière mon regard, une volonté de comprendre la préparation de cette séance par l'enseignant. Mais je n'en reste pas là. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir comment il ajuste en situation et comment il s'y prend pour tenir compte des imprévus de la classe, pour tenir compte des difficultés rencontrées par les élèves, pour tenir compte d'une consigne qui n'est pas passée ou d'un exercice qui apparaît trop difficile. Bref, pour l'ajuster, pour s'ajuster en situation. Et donc là, vous voyez qu'on est au cœur de l'activité effective de l'enseignant et de la manière qu'il a de s'y prendre pour faire circuler la parole en classe, ou souligner le travail d'un élève, solliciter des élèves, etc. Là, je dirais que c'est là le plus difficile pour un observateur et un accompagnateur. Arriver à voir, au-delà de la structuration de la séquence, ce qu'a su mettre en œuvre l'enseignant comme tactique, comme petit moment clé, comme improvisation qui permet de déjouer un blocage, qui permet de faire avancer la séquence. C'est le moment le plus difficile, c'est celui-là. Il y a aussi un troisième point, et ce troisième point, c'est la place que l'enseignant occupe dans la situation. Est-il un enseignant impliqué? Est-il un enseignant engagé? Est-il un enseignant jouant un rôle, mais un rôle, vous savez, comme un acteur et donc pas trop crédible? Je n'ai pas la même perception que certains. L'enseignant n'est pas un acteur. L'enseignant, lorsqu'il est un acteur, il n'est pas perçu comme un enseignant. L'enseignant, il est perçu quand il est crédible, c'est-à-dire quand il investit devant les élèves. Et donc, je me démarquerai de cette idée fortement répandue de l'enseignant comédien. On ne joue pas un rôle devant les élèves, on essaie de travailler dans une relation authentique avec les élèves. Et donc, cette implication-là mérite d'être réfléchie. Parce qu'il y a des phrases toutes faites qui tombent à côté de la plaque, qui déçoivent les élèves. Il y a des mots à l'emporte-pièce, il y a des boutades qui ne permettent pas à un élève de comprendre quelque chose, où là, la communication est faussée. Donc, je m'inscris en faux contre l'enseignant comédien. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que cet acteur impliqué? Quel est son système de valeurs? Qu'est-ce qu'il y met de lui-même dans cette activité, y compris lorsqu'il est devant une difficulté notoire? Un élève est bloqué, un élève résiste, un élève est violent, un élève est dans l'invective. Comment réagit-il? Ces trois moments-là, vous voyez, ils sont condensés dans l'action que vous observez. Ils sont condensés dans une même séquence de classe. Et pourtant, lorsqu'on regarde cette activité, elle est tellement complexe, elle est tellement épaisse, que notre idée, c'est franchement de dire, essayons de nous mettre dans une rigueur d'approche en termes d'action prévue, d'action mise en œuvre et d'acteurs impliqués, pour pouvoir envoyer à cet enseignant des éléments. Peut-être qu'il en prendra un, peut-être qu'il en prendra deux, peut-être qu'il en prendra trois, mais au moins lui renvoyer des éléments différenciés qui relèvent de la préparation, qui relèvent de la mise en situation et qui relèvent de sa manière d'agir et d'interagir en classe avec les élèves. Alors du coup, vous voyez que ce n'est pas simple cette affaire, puisque ça va nous obliger à penser un entretien de développement professionnel qui mérite d'être structuré. Alors vous voyez, tout à l'heure en introduction, je vous disais, la reconnaissance est souvent un processus diffus. Eh bien, dans une pratique d'accompagnement, je vais vous inviter à penser que c'est tout le contraire. La reconnaissance, c'est un processus qui mérite une formalisation. Et quand je dis une formalisation, je vais parler d'une trace écrite. J'y reviens. Bien sûr, il y a un cadre, il y a une interaction entre des individus, ou un formateur et un groupe d'enseignants, ça peut être une interaction collective, mais cette interaction ne reste pas orale, elle va se transformer en parole écrite. Un entretien de développement professionnel dans un processus d'accompagnement suppose une co-construction. Alors cette co-construction, ça veut bien dire que l'accompagnateur n'est pas là pour donner le là immédiatement en prenant la parole. Il va donner là en posant le cadre. Oui, ça oui, il va poser le cadre de l'interaction. Mais il ne prendra pas la parole en premier. Et vous savez, j'avais fait une recherche en 2005 avec des maîtres formateurs. Et ce qu'ils me disaient à l'époque, comme c'est difficile de se faire. On leur donne la parole, on attend 30 secondes, on attend une minute, c'est impossible, je prends la parole. C'est plus fort que moi, me disaient les maîtres formateurs, je ne sais pas gérer le silence. C'est vrai que c'est extrêmement difficile, dans des moments d'entretien, de gérer le silence. Alors, on ne gère pas le silence, je crois qu'on invite l'autre à parler. Et donc, inviter l'autre à parler, c'est probablement lui dire... Est-ce que tu veux revenir sur ce que tu as vécu, sur ce que tu as mis en œuvre? Est-ce que tu veux repartir du début de ta séquence pour l'aider à amorcer finalement une prise de parole, la sienne, plutôt que d'importer nous, vous savez, le regard de l'observateur externe. Ben, le regard de l'observateur externe, il va être déjà focalisé. Et cette focale-là, elle arrivera dans un second temps. Ce qui nous importe dans un entretien de développement professionnel, c'est avant tout le regard de celui qui a vécu la situation et qui l'a mise en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'on va court-circuiter cette première analyse, cette première explicitation de l'action, et ça c'est préjudiciable pour la suite. Alors co-construit, ça veut dire qu'effectivement il y aura des échanges, mais co-construit, c'est bien sûr avant tout donner la parole à celui qui agit, qu'il parle en son nom. Qu'on ne parle pas en son nom d'abord. Il y a une importance de l'auto-évaluation de l'acteur. Nous sommes tous d'accord dans la communauté des chercheurs. Nous ne faisons pas assez faire ou mobiliser l'auto-évaluation d'une pratique par les acteurs. Le bas blesse dans les moments d'accompagnement. Donner la parole à l'acteur, c'est aussi à un moment donné lui dire sur quoi tu sens que tu as des points forts. Sur quoi tu sens que tu te sens fragile. C'est l'amener à porter un regard, lui d'abord, sur ce qu'il pense savoir faire et sur ce qu'il lui faudrait encore pour tenir autrement, mieux, ajuster, etc. Donc l'évaluation, elle n'est pas assez regardée du point de vue de l'auto-évaluation, même si l'auto-évaluation va évoluer vers une co-évaluation. Une co-évaluation, pourquoi ? Ben parce que, évidemment, dans un entretien de développement professionnel, les pistes de travail, elles font l'objet d'un échange à deux. Il y a donc une co-élaboration des pistes de travail. Et je finirai par la chose suivante, qui risque d'ailleurs de ne pas être vécue par certains accompagnateurs, mais qui est une donne d'une interaction réussie. Un entretien de développement professionnel agit sur les deux interlocuteurs. C'est-à-dire qu'il y a un co-développement des interlocuteurs. Quand on a mené un entretien avec un novice, avec un praticien confirmé, avec un expert, ce qui est sûr, et qu'on sait que cet entretien a été fructueux, on sent en tant qu'accompagnateur qu'on a progressé dans l'analyse dans l'acuité du regard, dans la souplesse du positionnement, dans la douceur du propos qui est tenu. Et donc, on est grandi par cette situation interactive, parce qu'on a le sentiment d'avoir fait quelque chose qui permet à l'autre d'avancer, et on avance soi-même en tant qu'accompagnateur. Donc il y a un co-développement quand l'entretien de développement professionnel est fructueux. On ne sort pas indemne d'une rencontre professionnelle lorsqu'elle débouche sur un repositionnement de l'acteur. Alors quelle est cette structuration? La démarche d'entretien de développement professionnel, je voudrais vous dire qu'elle suppose une structuration. Alors moi je la propose en quatre temps, on la met à l'épreuve actuellement. C'est l'idée de partir de l'auto-analyse de l'action vécue par cet enseignant. Vous avez vu cet enseignant agir, vous avez vos idées, eh bien il va falloir faire violence, donner la parole à l'autre pour qu'il puisse mettre en mots ce qu'il a mis en œuvre, ce qu'il pense avoir mis en œuvre, ce qu'il est en train d'essayer de vous dire de ce qu'il pense avoir mis en œuvre, ce qui est très difficile. Et très vite, vous allez voir qu'il va déboucher sur « Ouais, j'ai pas été bon là, on est tout de suite sur l'auto-évaluation ». La difficulté, c'est de repartir vers l'auto-analyse, c'est-à-dire « Non mais là, tu me dis déjà que t'es pas bon, mais qu'est-ce que t'as fait réellement? Dis-moi ce que t'as fait. Dis-moi comment tu as fait évoluer ta situation, comment tu l'as mise en œuvre cette situation. » Puis on s'aperçoit que l'auto-évaluation, quand elle revient à l'auto-analyse, on oblige l'interlocuteur à expliciter cette situation vécue, ben il va diminuer cette approche un peu négative de ce qu'il a fait, cette déconstruction de son activité, et puis il va porter un regard un peu différent. Ouais, je ne l'avais pas vu comme ça. Et donc le moment d'auto-analyse, c'est un moment très important, puisque bien sûr, on n'est pas dans une auto-analyse, mais disons que la prise de parole est bien celle de l'enseignant, qu'elle sera étayée par le formateur accompagnateur qui est à ses côtés, et qu'elle permettra à un moment donné de positionner eh bien, un processus de co-évaluation. Et c'est le deuxième temps. On dialogue à deux sur les actes qui sont considérés comme des points d'appui. Et ne limitons pas nos regards à des points d'appui, des actes réussis. La réussite n'a pas à être exemplaire. La réussite, elle dépend d'une activité mise en œuvre. Et donc ce souci d'exemplarité qui irrigue notre culture, je vous demande de ne pas l'oublier. Quand on a mis en œuvre une situation, que cette situation, dans notre propre perception, marche, elle est réussie. Elle n'a pas à être exemplaire pour être nommée réussie. Ce moment de co-évaluation, de dialogue, d'échange entre ce formateur, accompagnateur et cet enseignant permet aussi de creuser une réflexion, de creuser des pistes, des sillons autour des obstacles. Non pas de trouver la voie, mais des voies possibles. Non pas de trouver la solution, la démonstration du fait à réaliser, mais des possibilités d'action. Et donc, c'est un pluriel qui est en jeu. Et ça n'est pas un singulier majeur. C'est vraiment l'idée de piste plurielle, parce qu'on ne sait pas, parce que la relation éducative, c'est Mérieux qui le dit bien, est gorgée d'incertitudes, de complexités, et qu'il serait absolument hallucinant que nous, accompagnateurs externes, nous ayons une compétence prophétique. Serions-nous des prophètes? Non, je ne crois pas. Je crois que nous avons à rester très modestes sur la réussite de l'action et donc à envisager des possibles. Mais la prophétie aussi, c'est un petit talon d'Achille chez nous. Hein. On voit bien la place de l'autre, on imagine bien la place de l'autre. Notre fiction n'est pas forcément celle qui sera la plus idoine en situation. Donc, je vous invite à penser que ce moment-là de dialogue et d'échange est à conjuguer au pluriel, bien sûr, des possibilités, des essais à faire, des tentatives à envisager. Vous voyez que dans les deux premiers temps, on se situe au niveau de l'action prévue et de l'action qui avait été préparée et de l'action mise en œuvre. Mais on n'a pas fini nos focales de tout à l'heure. Il nous reste encore à creuser cette question de l'éthos professionnel, hein, cette dimension des valeurs. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a vu une situation qu'on s'empêche de penser une réflexion sur le métier d'enseignant. Ce n'est pas parce qu'on a vu des élèves travailler en français, en maths, en histoire, en géo, qu'on doit s'empêcher de réfléchir sur la circulaire, le contexte, l'équipe pédagogique, etc. Et donc, c'est vraiment l'idée du contexte de travail, c'est-à-dire un élargissement de ce moment particulier où il y a une rencontre entre deux professionnels pour réfléchir professionnellement à un contexte de travail, avec ses tensions, avec ses impasses, avec ses contradictions, avec ses difficultés. Tant qu'on ne parle pas les impasses, tant qu'on ne parle pas les contradictions, on renvoie l'idée d'un métier magique. Or, notre métier n'est pas magique, il est saturé de contradictions, il est saturé de difficultés, il est très complexe. Donc je crois que le moment de l'éthos, c'est ce moment où on essaie de réfléchir à ce qu'on sait depuis très longtemps. C'est le fait d'être confronté en permanence à des conflits de valeurs. Nous sommes tous intriqués dans des situations et il y a là des valeurs qui se confrontent et pour lesquelles nous n'avons pas la solution. Donc je crois qu'un accompagnateur qui a une réflexion, je dirais, authentique et non pas de comédien devant l'enseignant ne peut pas mosquer ces conflits de valeurs qui existent dans le système éducatif. Enfin, vous voyez qu'il y a un quatrième temps. Instituer le développement professionnel. Instituer le développement professionnel, c'est quoi? C'est se dire, ce moment que nous venons d'avoir, ce moment qui est de l'ordre de l'interaction orale, on peut en rester là. Moi, formateur, j'ai fait mon métier, j'ai essayé d'être d'une bienveillance. J'ai parlé ailleurs d'ami critique. Eh bien oui, j'ai été un ami critique, j'ai essayé de jouer mon rôle de miroir, mais pas de miroir déformant, ni de miroir impositif, mais de miroir bienveillant. Et puis, nous nous quittons là. Bien. Eh bien, vous voyez, je crois que là, il se joue un moment crucial, c'est-à-dire que ce que nous savons maintenant avec les entretiens que nous avons menés avec les T1, c'est que le papier que vous allez rédiger avec lui, que vous allez co-écrire avec lui, alors on peut l'appeler une fiche de visite, vous l'appelez comme vous voulez. Nous, pour nos expériences, on l'a appelée fiche de synthèse pour ne pas faire peur. Mais vous l'appelez comme vous voulez. Cette fiche de synthèse, eh bien, elle est un moment où on écrit les points d'appui, les possibilités envisagées pour la situation, la compétence qui a été particulièrement mise en œuvre. Et c'est co-écrit. Co-écrit, c'est-à-dire que vous avez des... Alors j'ai fait cette expérience avec trois types d'acteurs, inspecteurs du primaire, conseiller pédagogique du primaire, maître formateur du primaire. Je ne suis pas arrivée encore avec le secondaire. Il est très difficile de faire des expériences, des recherches là-dessus, sachez-le. Quand un chercheur arrive, oh, il fait peur. Donc, il faut tout un temps d'apprivoisement et donc, pour l'instant, nous avons apprivoisé le premier degré. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que disent ces T1 ils disent la chose suivante. J'ai les textes, là. Je vais vous les lire. On leur a posé la question, que pensez-vous de l'écrit qui est proposé en fin d'entretien? Il permet de garder une trace de l'entretien, de prendre des engagements par rapport à ma réflexion. C'est un outil de réflexion qui permet de faire évoluer. On leur a demandé, est-ce que ça vous engage? Oui, ça m'engage. Autre parole. Du fait de la corrélation des points à réfléchir, parce qu'il y avait des points à réfléchir dans la fiche de synthèse, ça permet de cerner véritablement et de mettre en mots ce qui a été mis en avant dans l'entretien. En quelque sorte, c'est engageant. Tous vont nous dire la chose suivante. Je le relis plusieurs fois après l'entretien, après la séquence. Pour moi, c'est au-delà du pense-bête. C'est un élément qui me permet de réfléchir à ma façon de faire. On pose la même question aux professionnels accompagnateurs. Alors là, c'est un autre écho que nous avons. Et c'est un écho de gêne. C'est difficile de mettre par écrit. C'était très difficile de faire ça. À l'oral, ça passe bien tout ça. Pourquoi il faut un écrit ? Alors on leur a renvoyé la réponse des T1, on leur a dit, ben voyez, l'écrit qui vous pose des difficultés au niveau sémantique, eh bien ce T1 que vous avez rencontré, 15 jours après, un mois après, bien, il vient le relire. Il vient le relire parce que pour lui, c'est une trace d'un moment qui a été important et qui lui permet de réfléchir sur l'enseignant qu'il est, sur l'identité professionnelle qui est la sienne et sur son engagement dans le métier. Donc vous voyez que l'entretien de développement professionnel est vraiment un moment de co-développement parce que ça oblige l'accompagnateur à passer par une sémantique de l'activité professionnelle qui est difficile. Notre sémantique habituelle, allez, je vous la donne, hein, préparation, objectif, tâche, faute, validation, évaluation, mais là il s'agit de décrire un échange et le contenu de cet échange entre un accompagné et un accompagnateur. C'est difficile. Donc il y a une sémantique à construire. Cette sémantique, elle est d'autant mieux construite qu'elle est énoncée par le stagiaire lui-même. Alors certes, alors l'inspecteur, auquel je faisais référence, avait demandé à la stagiaire de donner d'abord sa phrase. Alors, comment tu l'écrirais, toi ? Ça a marché comme ça, en fait. Et il a complété cette phrase. Moi, je dirais ça aussi. Finalement, ils se sont mis d'accord. Donc, la fiche de synthèse a été encore rédigée. Le maître formateur a dit, je lui ai dit d'écrire au crayon, puis après, on a repris. Il lui a laissé le temps de la réflexion. Donc, ils ont effacé le crayon, ils ont mis ensuite feutre. Et le troisième a dit que ça avait été franchement très embêtant. Très, très embêtant parce que c'est un, comment dire, être conseiller pédagogique, c'est plutôt de l'ordre de l'interaction orale. Bon. Je ne veux pas faire des profils. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'écrit est engageant, mais il est engageant pour les deux parties. Il est engageant pour les deux parties parce qu'il y a là l'idée qu'on s'est rencontré autour d'une activité professionnelle, on en a dégagé des points d'appui, des points de renforcement, et qu'il y a probablement un autre rendez-vous à venir pour envisager de faire le point depuis cette première rencontre. Et c'est là qu'est l'engagement pour l'accompagnateur. Si effectivement il remplit cette fiche de synthèse, il se dit, il faut que j'y retourne. Il faut que j'y retourne parce que il y a mis du sien dans ce moment-là. Et ce moment a été vécu comme un moment de véritable interaction professionnelle. Et donc, il m'importe de lui montrer qu'il y a un suivi. Alors, on en est là au niveau de la recherche. C'est-à-dire qu'on sait que l'entretien de développement ne peut plus rester au niveau de l'oral, mais qu'il a besoin d'être accompagné d'une trace écrite parce que c'est un support pour celui qui débute le métier et qu'en même temps, pour le professionnel qui accompagne, c'est aussi une trace écrite de cette première situation parce qu'il va en voir, les stagiaires, il va en voir les gens qui débutent le métier. Donc il sait à quoi se tenir. Alors, je le visionne de cette façon, si vous voulez, cet entretien. Il y a vraiment un moment d'analyse et de co-analyse, l'idée étant que la parole est donnée à celui qui agit d'abord. Il y a un moment d'auto et de co-évaluation, d'interprétation de cette situation, point d'appui, point de renforcement. Et puis il y a ce moment-là, vous voyez, où on essaie de réfléchir sur le métier, sur le contexte de travail, sur l'établissement scolaire, sur l'équipe, sur la manière dont on se voit dans ce contexte-là. Et sur les valeurs qui posent problème, qui sont des valeurs fondamentales du métier. Et puis il y a ce moment d'institutionnalisation, et l'institutionnalisation, c'est ce temps majeur de la coélaboration de la fiche de synthèse et de la coécriture de la fiche de synthèse. Il y a donc ici un engagement mutuel sur un moment très important pour celui qui débute le métier. Alors, il est question, bien sûr, derrière l'entretien de développement professionnel, de promouvoir l'évolution d'une professionnalité. Il est question de faire en sorte que les acteurs se sentent en mouvement et pas en surplace, ni en régression, ni en résistance. Donc, il est que l'on soit chef d'établissement, inspecteur, formateur, conseiller pédagogique, maître formateur, père. Il y a des pères aussi qui travaillent et qui deviennent des accompagnateurs dans l'établissement. Bien, l'idée, c'est d'être promoteur de cette professionnalité en construction, car nous savons aujourd'hui, un praticien innovant à 2 ans de sa retraite est dans une professionnalité en cours de construction. Un professionnel agissant à 3 mois de son départ à la retraite est toujours dans une professionnalité en construction. Donc on voit bien que agir professionnellement, c'est être en veille par rapport à des enjeux à la fois, éducatifs, mais en même temps professionnels pour soi, socio-professionnels, un groupe de pairs, une communauté d'enseignants. Alors, là-dessus, il me semble qu'il y a des enjeux très très importants. Je voudrais insister sur les attentes des corps d'encadrement. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les inspecteurs et les chefs d'établissement sur, vous savez, ces évaluations croisées. Et sur la part qui revenait à chacun dans les évaluations et ce qu'ils pouvaient partager ensemble dans l'évaluation. Et donc, il est très important, très très important, si on a toujours en tête cette visée de reconnaissance professionnelle, de réfléchir à ce qui est le partageable entre une inspection et l'évaluation d'un chef d'établissement et ce qui est spécifique à chacun. Et croyez-moi, les séminaires que j'ai faits depuis 2 ans, que ce soit en France ou en Belgique, eh bien montrent que ça n'est pas si simple que cela. Et que ça mérite d'être travaillé, d'être explicité. J'ai laissé à Mme Crouzier d'ailleurs un article sur le point de vue des chefs d'établissement sur la professionnalité des enseignants. Vous en aurez, je pense, un exemple. Mais sachez quand même que ma focale de chef d'établissement, si je me positionne en tant que chef d'établissement sur la professionnalité de l'enseignant, elle est très précise et elle est très distincte de celui d'inspecteur, comme elle est très distincte de celui du formateur. Et donc je crois que c'est très important d'arriver à clarifier ces attentes respectives des uns et des autres, parce qu'il y a des chevauchements, il y a des contradictions parfois. Alors vous me dites blanc, l'autre il me dit vert, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je comprends, je me sens tiraillée. Et je pense au contraire qu'on peut très bien avoir une clarification sur les systèmes d'attente du chef d'établissement, sur les systèmes d'attente de l'inspection, et une clarification sur ce qui pourrait être une évaluation partagée par les deux entités. On va également revenir sur cette idée que il est important aujourd'hui que, je s'étais dit ce matin, hein, je n'invente rien, que l'on se professionnalise sur l'accompagnement. Bon. Alors, je crois que les propositions que font Evelyne Charlier et Karine Dejean, qui travaillent beaucoup sur l'activité des accompagnateurs, sont extrêmement importantes. Et moi, je vous renvoie à leur PowerPoint d'hier, sur au moins deux grands points, il me semble, elles ont clarifié ce qu'elles appellent les conditions favorables au développement professionnel dans l'établissement. Je crois que c'est extrêmement important de regarder ça. Et elles ont aussi clarifié les caractéristiques de l'accompagnement et du développement professionnel. Et je pense là aussi que c'est extrêmement important pour toujours se dire que, au bout de cette affaire d'accompagnement, la finalité de l'accompagnement, c'est que les acteurs agissent dans une, comment dire, une vision d'eux-mêmes positive, dans une vision par les autres d'eux-mêmes positive, et donc c'est ce qu'on appelle la reconnaissance professionnelle. Et donc c'est vraiment un moyen, une démarche au service d'une professionnalité, l'accompagnement. Pour que ce moyen, cette démarche soit au service d'une professionnalité toujours en construction, eh bien je crois que nous ne pourrons pas ne pas nous pencher sur ces deux propositions faites par l'équipe de Namur, que je trouve fondamentales. Donc vous voyez, je ne les ai pas reformulées parce que je trouve que c'est tellement bien dit que je ne le dirai pas aussi bien. J'ai fini de vous assommer. Place aux questions.